This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode de So Sweet Planet est consacré aux Dames de la Joliette, cinq artistes marseillaises et liées à la Méditerranée, aux sensibilités plurielles qui mêlent joliment leur voix pour rendre hommage à la poésie féminine et engagée. Elles portent en elles la Sicile, la Provence, la Grèce, la Kabylie, l'Espagne. Elles ont évolué dans le bain des musiques traditionnelles et polyphoniques, provençales, grecques, italienne, hispanique, berbère, mais aussi urbaine. Tout ce que j'aime sur So Sweet Planet. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de deux des dames de la Joliette, Sylvie Paz et Annie Maltinti. Bonjour à vous et bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le petit texte qui vous présente nous dit « Les Dames de la Joliette se veulent héritières de l'esprit de résistance à l'image de toutes ces femmes du monde qui ont mené des combats contre toute forme de violence ou de discrimination et dont les voix trouvent un écho puissant dans les luttes contemporaines. » Donc, quand et comment est né ce projet ?
Alors, le projet est né en fait de la volonté d'un compositeur qui se trouve être mon frère, il s'appelle Gilles Agnortepaz, et qui avait fait un travail de recherche sur un peu la poésie des trous verts, poésie provençale, poésie brésilienne, poésie traditionnelle ou mots d'auteur. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de mots de poétesse. Et le premier travail qu'il a fait dans Radio Babel, il avait envie de faire un peu une étoffe féminine, et il a eu envie de nous rassembler et il nous a proposé en fait de nous écrire à partir de textes qu'on avait soit trouvé soit lui trouvé, de bâtir un répertoire autour de ces femmes, de cette poésie féminine, mais c'est l'intitulé, c'est quand même autour des Dames de la Joliette qui sont des personnages très importants de la vie marseillaise.
Ah oui, on va en parler.
Voilà, l'idée c'était de donner vraiment la parole aux femmes. Mmh. Et le groupe est né en 2016 au chantier de Corrence. Ensuite, on a joué le projet aux joutes musicales de Corrence. Mm-hmm. On se connaissait déjà, on connaissait le travail des unes des autres à Marseille. C'est vraiment la ville qui nous a rassemblés. Dans le sens où c'est une ville qui donne envie de créer des mélanges, de faire de la création. On peut travailler autant avec un musicien arménien, grec, hispanique, kabyle. Voilà, les choses se font tout naturellement dans cette ville.
Et oui.
Les mélanges.
Les mélanges. Les mélanges bienvenus, les mélanges enrichissants. Donc, avant de parler de qui sont les Dames de la Joliette en 2022, c'est-à-dire vous, j'aimerais que vous nous racontiez qui étaient les Dames de la Joliette.
Alors, je pense que la spécialiste mondiale des Dames de la Joliette, ce sera Annie, mais en préambule, on va dire, il y a eu un événement assez intéressant, c'est que dans notre collectif à Indalo, on avait un local qui était au boulevard des Dames. Et ces dames dont on va parler dans deux secondes, c'était leur quartier. Ces femmes qui ont lutté, elles habitaient là. Donc c'est non pas un heureux hasard, c'est peut-être normal. Mmh. On est affiliés à cette histoire-là aussi.
D'accord.
C'est ça, on passait plusieurs fois par jour devant la plaque commémorative à l'angle du boulevard des Dames. Donc on ne pouvait pas ignorer cette histoire.
Elle sera
on a cherché, on a creusé un peu. Et il faut remonter donc en 1524, à l'époque où des femmes ont pris les armes pour lutter contre Charles Quint aux côtés des hommes. Alors après, on est allé voir aussi dans les archives de la ville. Mm-hmm. On a trouvé des prénoms,
oui,
qui résonnent, qui font écho à des noms de rues à Marseille. Forcia, Bossé, Lamure, Lavento, La Roquevert. Mais au-delà de ça, il y en avait bien d'autres. C'était pour dire que ces femmes-là ont lutté égal aux hommes, tout simplement.
Oui, donc les histoires se recoupent, on sent, entre le travail qu'avait fait ton frère et puis cette histoire, votre local.
Et l'idée, comme ces personnages n'ont pas d'étoffe, on ne sait absolument rien sur ces personnages, oui, sont devenus des symboles d'une lutte.
Oui.
Et notre volonté, c'était de donner la parole aux femmes au travers des textes que l'on chante.
Oui, on va en parler plus en détail de ces textes. Et vous venez de quels horizons musicaux chacune, si vous pouvez aussi parler pour les trois qui ne sont pas là?
On vient plutôt des musiques dites traditionnelles, de la chanson et aussi de la musique d'improvisation. Donc on s'intéresse, Maura Guerrera, qui est la chanteuse sicilienne, elle a commencé un travail en même temps et très presque de faculté, c'est-à-dire elle a commencé à étudier, puis elle a cherché, elle a rencontré des bergers qui lui ont montré de la transmission des chants qui viennent de la notion de migration avec les animaux, de soins, des chants aussi qui sont liés au feu, qui sont liés au volcan, qui sont liés à des territoires. Donc elle a en même temps fait cette démarche. Et je pense que c'est ça qui nous réunit aussi, parce que on est né peut-être dans des familles où il y avait des fois des musiciens, mais parfois non. On a fait la recherche de nos histoires, de nos origines. Et elle amène par exemple ce côté du tamburedu, qui est un tambour qui permet aussi de jouer la pizzica, ou qui jouait des choses qui sont des musiques de trance.
Un tambour sicilien.
Voilà, les pour Nadia Tighidet, c'est une musicienne qui est de famille kabyle. Mm-hmm. Donc la percussion, c'est un langage qui est très naturel chez elle, et qui s'intéresse avec le questionnement sur le langage aussi, parce qu'elle est kabyle, mais elle ne parle pas cette langue. Et du coup, ça l'a intéressée aussi de retrouver un peu cette racine-là. Et c'est la plus tambour de chez nous, c'est-à-dire c'est notre percussion
référente numéro 1.
Voilà.
Ah oui.
Vraiment percussionniste, et qui a commencé à chanter pour le projet des Dames de la Joliette, qui ne chantait pas auparavant.
D'accord.
Et qui là, sur le CD, interprète Amours.
Pour Annie, elle aussi, elle a un double parcours.
C'est moi.
C'est-à-dire que je vais parler de toi, regarde, écoute bien. Et elle est en même temps, elle vient et l'anthropologie, et en même temps de l'étude aussi de la sociologie, et en même temps, elle a un vrai amour pour la culture et provençale et brésilienne. Et donc, elle a fait cette découverte que je découvre avec elle, parce qu'au fur et à mesure, elle nous présente des artistes brésiliens. Et c'est toujours un plaisir, parce que moi, j'ai écouté de la musique brésilienne petite. Je me suis beaucoup sourcée à ça. Mais je m'aperçois que je n'en connaissais que même pas 0,5 de cette musique, qui est immense et qui parle beaucoup aussi de cette histoire de racisme, de notion aussi de la nature, de la notion du bien-être, du respect, oui, de l'autre, de l'amour. Donc il y a... Et pour ma part, moi, je viens plutôt d'une famille de musiciens, puisque j'ai grandi avec mon frère. On a bien pollué le salon de mes parents avec la guitare et avec les premières chansons. Et puis, on vient de famille espagnole d'Algérie, avec une grande tradition de chanteurs et de chanteuses. Et j'ai tissé peu à peu un lien entre la question de l'origine et la question aussi d'être soi. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, comme Annie et comme Maura aussi, avec les actions culturelles. Et je m'intéresse beaucoup à c'est pas le terme ne serait pas aidé, à permettre aux gens d'émerger de quelque chose par la musique. Et donc c'est un fleuve souterrain, hein, c'est très petit. mais ça me touche beaucoup quand on fait avec les Dames de la Joliette des actions avec des jeunes, avec des moins jeunes, et que ça permet aux gens de dire ben j'ai pleuré, j'ai été émue, ça m'a fait du bien. Un petit bout de bonheur, quoi.
Oui. Annie, dans ta bio, donc, que l'on peut lire sur Internet, sur le site des Dames de la Joliette, on peut lire « Annie a étudié le fait musical à l'Université de Provence, ethnographie d'un quartet de jazz au pêle-mêle, puis en doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, mise en place d'une critique spécialisée du jazz en France. L'un des intérêts de ce travail est d'envisager la musique comme phénomène social, de poser une cartographie des représentations mentales liées à cette musique de jazz en France, et surtout de mieux comprendre les approches musicales de tradition orale, les enregistrements que l'on se transmet entre musiciens, faisant office d'œuvres vives, c'est joli cette appellation, moins décontextualisée que la partition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, et est-ce que l'on peut lire aussi ton travail quelque part? Parce que du coup, ça a aiguisé ma curiosité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'aimerais bien lire des choses là-dessus.
Alors, en fait, le jazz est arrivé en France. Il n'y avait pas d'école, c'était une culture à part entière. Et au début, ce sont des musiciens qui étaient critiques de musique classique qui ont parlé du jazz, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fallait faire un travail un peu d'anthropologue pour essayer de... qu'on ne pouvait pas plaquer les mêmes catégories que pour la musique classique.
Oui.
Et qu'il fallait essayer de la comprendre. Donc il y a eu, toute l'histoire de la... le jazz n'a pas du tout la même histoire, bien sûr, en France qu'aux États-Unis. Oui. C'était la terre d'accueil. Hein. En France, il y avait un intérêt, un intérêt évident depuis le début, depuis l'arrivée des revues, etc. Après, cette histoire d'œuvres vives, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'école. Et les musiciens, quand ils préparaient des concerts, ils se téléphonaient et disaient « Tu travailles telle version de tel album. » Et ensuite, on se retrouve et on joue. Donc, le jazz a beaucoup évolué, est vraiment entré dans les écoles. Il est rentré au conservatoire en 1962 ou 64, Marseille ayant accueilli la première classe de jazz au conservatoire.
Ah oui,
voilà.
C'est décidément une ville très riche.
Le sud, il y a beaucoup de... Le sud Marseille, Solliès-Toucas, le sud-est, une forte relation avec le jazz.
Oui. Et puis avant de reparler un peu aussi avec Sylvie de son parcours, la partie Brésil, j'aimerais bien que, si tu veux bien, que tu nous en parles un petit peu. Parce qu'en fait, un peu curieusement, vu que moi je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il se trouve que le Brésil est revenu pas mal dans les derniers podcasts de So Sweet Planet. Par rapport à l'actualité des peuples autochtones, par rapport à des livres. Là, je viens de faire une interview de Saba Ramani, qui dirige la nouvelle collection chez Actes Sud, Voix de la Terre. Et donc, il y a deux livres qui viennent de sortir, qui sont extraordinaires. Et j'ai aussi fait un podcast récemment avec Survival International, qui est l'association emblématique de la défense des peuples autochtones, mais avec les peuples autochtones, c'est-à-dire vraiment parler avec eux, transmettre leurs paroles et non pas venir imposer. Et donc, tout ce travail est revenu à plusieurs reprises par différents podcasts. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'attitude que l'on a pu avoir de mépris et où on a piétiné ces vies de peuples autochtones, là, en l'occurrence, en Amazonie, aujourd'hui, de cette attitude, on paye les conséquences avec le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité qui fait qu'on a l'émergence de nouvelles pandémies. On en a parlé avec Marie-Monique Robin. Et hier, avec Chico César, on a aussi parlé de musique et de cette attitude de non-respect de ces populations autochtones. Et du coup, quand j'ai vu que dans ta bio, ça réapparaissait aussi, encore par une autre...
séjournée chez les Indiens.
Voilà, un autre biais, je me suis dit que décidément,
dans l'état de la Bahie, donc
est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de comment tu es partie là-bas et qu'est-ce qui t'a appelé comme ça vers cette culture?
Alors le début de l'histoire, c'est pas du tout une aventure qui fait rêver.
Oui.
Non, je me destinais pas du tout à aller au Brésil. Sylvie l'a dit, je viens de l'anthropologie et de la musique polyphonique occitane. pas du tout de l'univers des solistes, vraiment de la polyphonie. Et je suis allée voir une amie qui faisait un post-doctorat scientifique là-bas. Et il y a très longtemps, il y a 18 ans.
Oui.
Et ça a été un grand coup de cœur. J'étais d'abord à Rio et par rapport au... J'ai fait plein de parallèles entre Marseille et Rio. Je me suis sentie... J'étais pas dans un décor comme j'ai pu le ressentir en visitant d'autres pays. Là, je me sentais vraiment chez moi, mais avec une ouverture. Et je découvrais plein de choses qui me nourrissaient.
Oui.
Et ensuite, j'ai pu être invitée chez les Indiens, Patachon. Je suis restée à peu près 3 semaines et j'étais en contact avec l'histoire aussi du lieu parce que je séjournais chez la fille de la personne qui avait fondé l'Audeia. On dit réserve en français, mais c'est la communauté, l'Audeia.
Okay.
Donc, il m'a raconté effectivement la création de ce territoire et comment ils ont été aussi trompés, persécutés jusqu'au moment où, parler avec des armes à feu, et jusqu'au moment où ils ont décidé de ne plus fuir et de combattre et de résister, voilà, jusqu'à fonder ce territoire.
D'accord. Et alors, est-ce que musicalement, ensuite, tu as eu aussi des...
Alors musicalement, c'est vraiment, c'est vrai que en France, souvent on dit musique brésilienne, on pense à la bossa nova parce que elle a été connue, popularisée par le biais du jazz aussi. C'est toute la relation Amérique latine, Amérique du Nord et les retours vers la France.
Oui, oui.
Mais il y a beaucoup de rythmes. Populaire et de musique populaire au Brésil, et c'est ça qui m'a intéressée. Et il y a eu des liens entre la musique occitane et ces musiques populaires, notamment le répertoire écrit pour l'accordéon, la musique qui est à la mode en ce moment en Europe, qui est le forró.
Oui.
Voilà. Et j'ai découvert plein d'instruments traditionnels, rebeca, etc., toutes les percussions traditionnelles qu'on utilise aujourd'hui aussi sur scène avec la Joliette.
C'est vraiment intéressant parce qu'on sent, c'est pour ça que j'avais envie de tirer les fils un peu de vos bios, parce qu'on sent ce que vous faites aujourd'hui, c'est nourri par vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en amont, quoi. On sent qu'il y a une richesse culturelle dans tout ça. Oui.
Comment on appelle ça en espagnol? Le copla?
Oui,
voilà, le cordel, donc ce sont des petits livrets suspendus à des cordes à linge dans les marchés. C'est la poésie à conte d'auteur qui était d'abord déclamée dans les rues et ensuite qui a été écrite au Brésil. On appelle ça la poésie cordel. Mais en Espagne, il y avait aussi des...
Ou la décime, c'est-à-dire l'art... Là, on parle de l'art de la joute un peu. Oui. Une façon de faire rimer les mots avec une contrainte de pied. Et comme une battle, comme maintenant on retrouverait ce qui se faisait dans les campagnes... on faisait des joutes oratoires, vocales, avec une contrainte aussi de poésie. Et c'est vrai que souvent dans la musique traditionnelle, on voit la poésie très simple et parfois la chose très écrite qui se transmet, on ne sait pas d'où, mais dans l'air du temps, et qui se véhicule pendant des siècles et qui raconte des histoires extrêmement belles et comme des mythologies. Donc finalement, on est toujours porteur. Je pense à la musique judéo-espagnole, par exemple, qui a toujours un bout de refrain, de dicton. Et on sent qu'il y a un bout d'une culture qui s'est disséminée au fur et à mesure, mais qui existe encore au travers de la chanson. Parfois, les langues n'existent plus, mais la musique et la chanson fait qu'elles existent. On pense à la musique arabe-andalouse, par exemple, qui est une musique... qui a parfois plus de 600 ans d'existence ou plus, et qui d'un coup ressurgit. Alors, des fois, on connaît encore un petit bout, une petite poésie, mais enfin, on en a perdu beaucoup d'heures de poésie. Mais nous, c'est vrai que dans les Dames de la Joliette, c'est notre terreau. C'est pas forcément comme ça qu'on travaille, mais on s'est bâti aussi avec cette idée, ce pont entre la modernité et la tradition qui vient des femmes et des hommes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humain a fait, qu'est-ce qu'il a bâti, comment il l'a fait, comment cet instrument a été joué, pourquoi il se joue comme ça. Il y a des instruments qui viennent des instruments des esclaves, il y a des instruments qui viennent des instruments des bergers parce qu'il y a des peaux, parce qu'il y a du bois qui a été travaillé, il y a des sonailles, mais elles ont toutes ces percussions, des sonailles, des petites bruits de métal qui ont toute une résonance et une raison d'être. Et je pense que quand on est chanteur et chanteuse, on est porteur de la voix d'autres personnes aussi.
Bon, d'une part, la tradition, les traditions, c'est toujours aussi, il y a une part d'invention, c'est pas quelque chose de figé, de fixe.
Oui.
Et par ailleurs, on joue des compositions et on prend des libertés par rapport. On a l'impression qu'on joue des morceaux traditionnels,
oui.
Parfois, mais parce qu'on est à l'épuiser, mais librement, en fait, pour arriver à de la création. Et à se rendre compte qu'il y a des passerelles. Voilà, entre des rythmes de Galice, du Brésil, et puis il y a le tambour sicilien qui va trouver une tourne complémentaire. Voilà, on arrive vraiment à mélanger les choses harmonieusement.
Oui,
on essaie.
Et Sylvie, toi, j'ai lu que tu avais créé avec ton frère le groupe Barrio Chino. Et il me semble même que j'avais reçu un album quand je travaillais sur Aligre FM, donc ça date. Je crois que c'était bleu et jaune, c'est possible.
Exactement, oui.
Et donc j'ai été étonnée de lire ça. Et donc ça existe, j'imagine, depuis assez longtemps du coup. Depuis combien de temps maintenant et qu'est-ce que c'est en fait Barrio Chino? Est-ce alors, que c'est vous
alors Barrio Chino, c'est des compositions de mon frère et moi-même et avec beaucoup d'invités qui venaient de la musique cubaine, de la musique algérienne.
Oui, voilà. Donc il y avait déjà le mix culturel.
On a beaucoup collaboré avec un musicien qui s'appelle Patrick Cassino, puis après Bernard Menu, qui sont des arrangeurs. Donc c'est un travail familial qui met la poésie à l'honneur avec les rythmes, notamment la rumba et le 6-8. Le 6-8, c'est un genre de rythme qu'on retrouve, qui est un rythme fondateur. Mmh. Et c'est un groupe qui commençait à tourner jeune, puisqu'on l'a commencé petit, mais qui a commencé à exister à partir de 92-93. Et puis, on a été révélation des Franco en 2000. On a beaucoup travaillé à l'étranger, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, Barrio Chino a commencé à travailler. Donc, on a beaucoup travaillé d'abord à Cuba, puis après, on a commencé à travailler à New York. Puis après, on s'est intéressé en 2002-2003 à rendre hommage à des musiciens algériens ou judéo-arabes, notamment du répertoire d'Algérie. Puis après, on s'est intéressé au répertoire du music hall du Maghreb. Mm-hmm. Et un spectacle qui s'appelait Les Orientales. Et on a eu une collaboration magnifique avec les musiciens de la radio algérienne. Et alors, du coup, c'est toujours encore mon frère qui a fait de l'orchestration. Moi, j'étais plutôt interprète, on était plus compositeurs. Et on a prêté voix à des grands hits de ces musiques-là. Et à ma façon, moi aussi, j'ai cheminé avec cette histoire familiale, puisque moi, je suis de famille espagnole d'Algérie. Et du coup, c'était un chemin logique. Et puis après, j'ai incorporé des compagnies, dont les Dames de la Joliette, c'est-à-dire que je prête voix et corps, disons, à de la composition et aussi à ce que c'est l'incarnation d'une femme, d'une poétesse, même si on donne la voix à ces personnes-là, qui ne sont plus. Je pense à Alfonsina Storni, par exemple, qui est très connue, qui est une poétesse qui est née en Suisse, en fait, mais qui a épousé la cause des Argentins. Mmh. Et qui s'est suicidée suite à une peine de cœur.
Ah oui.
Et qui
j'ai lu ça en préparant l'interview.
Voilà. Et qui a laissé son dernier poème. Et de ce dernier poème, on en a fait une chanson qui s'appelle Alfonsina y la Mar, qui est en fait la peine de cœur universelle de tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que c'est bien sûr la chose ultime. Il n'y a pas que ça à faire dans la vie, mais cette femme-là, elle a laissé une poésie magnifique que pas que les Latins. Par exemple, les gens au Maghreb reconnaissent cette poésie hispanique. Elle est très forte, elle porte très porteuse de sens. Donc, pour moi, c'est une joie de me dire qu'on arrive à lui redonner ses mots avec la légèreté aussi.
Oui. Et avant de parler justement plus des textes que vous avez choisis et des chansons qui composent cet album, donc pour terminer je ne fais qu'évoquer des petits bouts de vos bios parce que sinon on pourrait faire, je crois, un podcast en pas mal d'épisodes. Mais j'ai lu que tu écris et tu dessines aussi.
Alors, tu dessines j'écris. J'ai écrit un polar une édition qui s'appelle Les Cahiers du Sud, mais les cahiers comme un écaillé de poisson, parce que je trouvais que c'était une ville qui s'y prêtait bien. Et maintenant, je pense que la réalité dépasse la fiction. Et je dessine depuis que je suis petite, et je dessine souvent des choses pour les enfants. Et j'ai fait un petit livre de berceuse avec un musicien qui s'appelle Zef pour Ville des Musiques du Monde. C'est un livre offert aux jeunes parents de la ville d'Aubervilliers. C'est un petit plus de tournée, quoi.
D'accord.
Je pense que les artistes, on est dans une génération où les gens font beaucoup de choses,
oui.
Et très bien d'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter, si on sait le faire, de pouvoir développer, je sais pas, de la mathématique et de la musique, de l'anthropologie et du rythme. Enfin, je crois qu'il faut croiser les disciplines. J'ai oublié dans la biographie de nos camarades, il y a Kaliroy Raouzeou, qui est donc musicienne d'Athènes, qui s'est installée à Marseille et qui, elle, vient d'un cursus, elle a fait ses études à Corfou et elle a eu une passion, avant de parler la langue, pour la chanson française, notamment Barbara. Et elle a donc un cursus de musicienne classique, mais en même temps...
C'est étonnant d'avoir passion pour Barbara. Déjà, musicalement, c'est quand même très particulier, Barbara. Et venant de l'étranger, d'avoir une passion pour Barbara sans comprendre les textes, en plus...
Je pense qu'il y a, des grandes chanteuses grecques. Il y a eu un grand mouvement du cabaret parisien, je sais pas si c'est les voyages de Moustaki ou les cabarets ou les exils forcés à cause de l'époque des généraux. En tout cas, il y a une écriture autour de cette écriture française qui est une écriture en même temps réaliste. C'est une chanson qui raconte le quotidien, le petit moment qui devient universel. Et voilà, ça c'est la cinquième des doigts de la main du quintet.
Ça rejoint ce que tu viens de dire, une phrase que j'ai notée, que tu dis dans la vidéo de présentation de votre projet des Dames de la Joliette, où tu dis « Pour moi, c'est toute la poésie et la délicatesse de l'artiste de voir les choses infiniment petites pour qu'elles deviennent aussi infiniment grandes. » C'est joli.
Quand on raconte, il y avait une émission sur Barbara, mais quand on sait raconter ce qui nous fait quotidien, c'est-à-dire l'imprévu, le moment de, je sais pas, quand on a chanté Brassens ou quand on entend dans le flamenco quelque chose qui est quelque chose d'infini. J'étais devant ta porte, j'ai jeté un citron et tellement toute la nature savait que je t'aimais que le citron est revenu vers moi. Je trouve que ça parle à tout le monde, à moins qu'on n'aime pas le citron, mais sinon.
Donc, j'aimerais bien déjà que vous nous parliez maintenant des textes et de leurs autrices et de comment vous les avez choisis, comment chaque texte est arrivé dans cet album, parce que j'imagine qu'en fait, il doit y en avoir beaucoup. Donc, comment vous avez choisi les autrices et puis les textes?
Il y a eu des propositions du compositeur. Oui. Et ensuite, on a fait des recherches aussi de notre côté.
D'accord.
Par rapport aux thèmes, aux époques, en fait, on a textes du Moyen-Âge, de la Renaissance, du 19e, du 20e. Voilà, c'est assez éclectique.
Est-ce qu'on peut parler, peut-être qu'on n'aura pas le temps de les faire tous. En fait, souvent, je prends 4-5 titres d'un album et je demande aux artistes de d'en parler parce que je me suis dit en faisant ça, ça va faire un petit portrait impressionniste de l'ensemble de l'album qu'on a rarement le temps de tout faire. Mais là, en fait, j'ai pas réussi à sélectionner. Mais oui, parce qu'en fait, chaque histoire, j'ai fait du coup des recherches. Louise Labbé, bon, je connaissais deux noms. Je suis allée chercher sur le net
la Belle Cordière,
qui était chacune, et en fait chaque texte et comment. Et je me suis dit, c'est impossible de choisir. Donc soit on essaie de les faire tous et de parler brièvement sur chaque texte. Si vous pouvez nous présenter qui l'a écrit et un petit peu ce que ça raconte. Parce que, en fait, dans l'album, c'est pour ça que je recommande toujours d'acheter les albums plutôt que les écoutes sur le net, parce qu'on a des livrets et il y a des petites explications qui souvent sont précieuses dans les livrets. Moi, j'ai surligné sur le livret les aspects que je trouvais intéressants. En fait, sur chaque titre, évidemment, c'est intéressant. Donc, je vous donne carte blanche.
Par exemple, on a un texte, on chante Béni, mm-hmm. une poétesse du Tarn,
oui.
du 19e, Louise Paulin, qui est c'était une femme qui était institutrice, qui a été ensuite qui a enseigné l'éducation physique, mm-hmm. et qui peu à peu a perdu la vue et qui s'est paralysée suite à une maladie. Et elle a terminé sa vie en dictant ses poèmes. Donc ce sont des textes, des parcours qui nous ont touchés.
Ah oui.
Et là, par exemple, pour cette poésie, c'est vraiment la perception, ses sensations, la perception qu'elle a de la nature, perception accrue par la cécité.
Et oui, il est question visiblement aussi de l'infiniment petit.
Oui, il y a des thèmes qui reviennent. Infiniment petit, les raisons pour lesquelles on chante, parce que chanter c'est aussi prendre la parole, il y a un rapport au texte, et donc il y a le morceau par exemple grec qui dit je ne chante que parce que tu m'as aimé, mm-hmm. il y a le morceau brésilien qui dit je chante parce que l'instant existe, et chanter donne une dimension complète et entière à ma vie. Et je sais qu'un jour, la vie me rendra muet. Parce que là, c'est un texte qui est écrit au masculin. La poétesse, elle a écrit au masculin.
Il y a la poésie de Gabriela Mistral,
oui.
qu'on connaît aussi dans des versions pour enfants, qui est une ronde des couleurs. Alors, c'est un hommage, un éloge à la couleur. Et chaque couleur a son caractère. Mm-hmm. Et...
Ronda de Colores.
Voilà, qui est une thématique qui est en même temps, il y a eu la proposition de mettre un rythme qui viendrait plutôt d'un rythme balkanique, un 7 temps, avec un rythme à 4 temps. Donc il y a un côté un petit peu balancé, étonnant. Et la poésie de Louise Labbé, Je vis, je meurs. Et
peut-être avant de passer à Louise Labbé, la présenter un petit peu, Gabriela Mistral, parce que c'est quand même
Alors,
aussi une
Gabriela
personnalité.
Alors, Gabriela Mistral, elle a ce nom d'abord parce qu'elle aime Mistral, elle aime la poésie de Mistral qu'elle découvre, et elle est le prix Nobel de littérature. C'est une grande poétesse qui a beaucoup œuvré aussi pour l'éveil et pour l'éclairage de la culture latine.
Poétesse chilienne.
Chilienne. Et qui a montré, s'il y avait besoin de montrer, qu'il y avait toute une génération qui allait naître dans ce pays et qui était déjà née aussi avant l'arrivée des Espagnols et des Brésiliens dans les territoires latins, qu'il y avait une poésie native très forte. Donc c'est des autrices qui parlent beaucoup de l'éloge de la nature avec des termes très précieux.
Et elle avait, j'ai lu dans le petit texte qui accompagne, dans le livret de votre album, elle avait des racines indiennes et basques.
Oui.
Bon, sacré mix.
Oui, oui. Et c'est vrai que si on commence à creuser, souvent on nomme quelqu'un sur un territoire, Alfonsina Storni dont on a parlé, on la nomme comme argentine, mais en fait voilà, elle est suisse, elle est suisse italienne, mais en fait elles appartiennent à un patrimoine. Et après il y a de la poésie traditionnelle, qui nous on chante de la poésie sicilienne qu'avait choisi Maura ou de la poésie kabyle, qui sont des poésies qui sont sans doute des tronçons de poésie qui racontent des bouts d'histoire, le rapport à la nature, le rapport à l'amoureux, les signes que l'amoureux pourrait en comprendre, la nature volcanique des choses. Donc ce sont des tronçons, mais qui bout à bout ont un sens, parce que c'est comme des grandes histoires sur lesquelles on pourrait bâtir toute une histoire. Là, on n'en a pris qu'un extrait, donc que ce soit les chansons que chante Maura ou Nadia, ce sont des la tradition populaire, quoi.
On parle dans les thématiques, il y a aussi l'amour, donc il y a l'amour, l'amour contrarié, l'amour heureux.
Oui. Et Louise Labbé, du coup, je t'ai coupé tout à l'heure.
Louise Labbé, c'est souvent une poétesse qu'on connaît sans connaître. Je disais...
C'est un texte très connu.
C'est un texte qui est très connu et ce qui... je vis, je meurs. Voilà. C'est quand même tous les tourments qui nous habitent quand dans la question de l'amour. Et moi, ce qui m'a sauté au visage, en tout cas, je ne pouvais pas faire autrement, c'est qu'en rentrant l'autre jour à Marseille, je me suis aperçue que sur les buildings, en arrivant à la porte d'Aix, il y a des jeunes qui ont réussi à taguer sur plusieurs mètres. Je ne sais pas comment ils ont réussi. « Je vis, je meurs ». Et après, il y a la phrase qui est un petit peu transformée. Et je me suis dit, c'est citer Louise Labbé sans le savoir, quoi. Et parce que c'est la réalité aussi.
Oui, et tu crois qu'il ne le savait pas ?
Je ne sais pas s'il le savait. En tout cas, c'est, notre vie, elle est faite de ça. Elle est née de la naissance à la mort. Et qu'en même temps, il y a la joie, le tourment.
De l'existentiel. Hein,
voilà, il y a de l'existentiel.
De la Joliette.
Mais c'est vrai que c'est toujours un mélange de chaud et froid et de froid et chaud, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le répertoire des Dames de la Joliette, c'est que c'est lié à nos natures et c'est lié à la force de la composition et à la force de ces poésies. C'est-à-dire que c'est des poésies qui vont dire en même temps « je me meurs » tout en exaltant les choses.
On a aussi adapté ces textes en traduisant des morceaux, des bouts de textes dans les langues des unes des autres.
Et oui.
Voilà. Il y a aussi une part d'adaptation, comme pour la musique, de création aussi.
Et il y a donc encore deux, trois titres, je crois, dont on n'a pas parlé.
Alors, Amourth, c'est justement cette poésie populaire kabyle qui raconte... ce sont des recueils de poésie, de travail qui a été fait par des poètes algériens et kabyles qui ont essayé il y a tout un travail pour essayer de garder, de mémoriser, de pouvoir garder ces poésies séculaires qui sont des poésies très très fortes dans les images. C'est comme des haïkus très visuels. On entend déjà en écoutant les mots. Il y a le vol d'un faucon, il y a le personnage qui, quand il marche, les pierres se transforment en or. Il y a la notion de temps, il y a la notion de la nature, et il y a toujours le parallèle, bien sûr, caché avec l'amour, quoi.
Et peut-être celle-ci pour Annie ?
Son poète.
Oui.
Alors, c'est l'éphémère, l'instant présent. Un personnage qui est soumis au vent, aux éléments.
Et l'autrice ?
Cecilia Meireles.
Oui.
C'est une poétesse, journaliste carioca de Rio. Mm-hmm. Femme engagée, très très connue au Brésil.
Qui n'est plus vivante ?
Non, non, non.
Oui, elle est décédée en 1964. On a même les dates sur le livret. Hein. J'encourage vraiment à acheter l'album pour avoir plus d'infos. Puis on a les textes aussi. Il y a combien de langues alors du coup représentées là,
alors,
dans l'album ?
Kabyle, espagnol, italien, provençal,
grec.
Un
peu français.
Français et l'intrus, le brésilien.
Oui. Et alors sur scène, comment ça se concrétise, tous les titres qui sont sur cet album? Parce qu'en fait, vous les avez portés, j'imagine, déjà sur scène avant l'album.
Oui, oui.
Puisque alors, vous existez déjà.
Il y a des textes, il y a des morceaux qu'on n'a pas enregistrés et qu'on chante sur scène. Les morceaux qui sont communs entre la scène et l'album, dans l'album, sont adaptés, parce que l'idée, c'est pas de faire la même chose que sur scène, sinon on fait la captation d'un live. Donc c'est de se faire plaisir. On a eu des invités importants, Simone Bottasso, Christophe Dal Sasso, Assanti Guidette. On a eu Gilles Agnortepas, le compositeur, etc. Donc on a donné une autre forme aussi au morceau. Il y a Frem de Marsille, c'est Femme de Marseille. Ce titre-là, on l'a un peu éclaté en bout. Ces petits morceaux reviennent sous forme de jingle. Voilà, on a donné une autre forme à cet album.
Alors, avant de terminer, donc, puisqu'on pourrait parler des heures, hein, c'est passionnant, et puis vous avez tellement à raconter. Ce sera peut-être l'occasion de futurs podcasts pour les albums suivants ou à d'autres occasions. Là, quelles sont les actualités à venir des Dames de la Joliette ?
Alors, si vous n'avez pas acheté le CD pour l'écouter dans le salon, ben vous pouvez nous retrouver parce qu'on a un site qui s'appelle lesdamesdelajoliette.fr.
Oui, qui est très complet.
Voilà, qui permet de raconter un peu l'histoire et de nous suivre. Et puis, si vous êtes du Sud, de temps en temps, on est aussi dans un lieu qui s'appelle la Maison du Chant où on enseigne le chant.
Qui est où ?
À Marseille.
À Marseille, bien sûr.
Très, très important, ce lieu.
Qui est une maison très importante pour la voix et pour la polyphonie. Et qui est notre maison mère, un peu.
Voilà, on est 4 sur 5 du groupe, oui, à intervenir dans ce lieu.
D'accord, donc on
et
rappelle
à transmettre.
Le nom. Il y a peut-être un site internet aussi pour ce,
oui,
lieu.
Oui,
c'est,
oui,
pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas
les voix
sur
du
Marseille.
Chant.
Les Voix du Chant.
Oui, V-O-I-E-S.
Ah, V-O-I-E-S,
voilà.
D'accord.
Et aussi, on a participé à la... On va retrouver des vidéos des dames sur D1 Concert. C'est très important, c'est la nouvelle chaîne YouTube lancée par la compagnie Indalo. Parce que ce projet des Dames de la Joliette fait partie d'une. S'inscrit dans une logique de compagnie autour des compositions de Gilles Agnortepas avec Barrio Chino, les Dames de la Joliette, Radio Babel qui maintenant est devenu le nouveau projet Afro Rumba Club et Nova Troba.
D'accord, c'est ça que j'aime bien à chaque fois que j'interview des artistes de Marseille.
Il y a des tiroirs.
En fait, il y a plein d'écosystèmes qui communiquent et il y a une ébullition, on sent vraiment une ébullition culturelle.
Nous sommes pour l'écosystème.
Oui, oui, je comprends bien. Oui.
Et c'est une façon aussi, créer cette chaîne YouTube, c'était une façon de ne pas faire de démarchage frontal à une époque où les programmateurs sont submergés par les propositions. Et donc, c'est une sorte de vitrine des projets que l'on veut défendre. D1, D-I-W-A-N, concert au pluriel.
D'accord. Et c'est pour ça que sur votre site, j'ai vu effectivement que plusieurs des vidéos étaient, il y avait comme référence D1. Et je me disais, est-ce que c'est une radio à Marseille ou c'est quoi D1?
Et là, c'est comme pour le disque. D'accord. Chaque fois, on invite un artiste sur nos morceaux. Voilà.
OK. Bon, bah en tout cas, c'est vraiment passionnant, les Dames de la Joliette. Donc, chers amis qui nous écoutez, comme d'habitude, vous pourrez soit sur le site, si vous êtes sur le site sosweetplanet.com ou si vous écoutez ce podcast sur une application de podcast ou une plateforme de streaming, vous aurez dans le texte, dans le descriptif de cet épisode, les liens vers le site internet des Dames de la Joliette. Vous aurez sur le site sosweetplanet un player pour écouter l'album. Vous aurez le lien vers les pages de réseaux sociaux. Pour avoir les dates de vos concerts, il vaut mieux aller regarder quoi ?
Sur le site internet.
Le site internet. Finalement, heureusement que vous n'étiez que deux, parce qu'à cinq...
Ah oui, là il faut deux journées.
On aurait terminé, oui, c'est ça. J'allais dire à minuit, mais au moins deux journées. D'accord. Bah, en tout cas, c'est passionnant, c'est riche. Et voilà, c'est cette multiculturalité qui est si précieuse, hein, puisque moi, sur Sosweet Planet, je défends la biodiversité et la diversité. Et on se rend compte que dans tous les domaines, c'est très important et c'est vital. vital. C'est une question de survie de l'humanité dans les deux cas.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Voilà, un grand merci, bonne continuation merci. Et surtout bonne scène au pluriel. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
À bientôt.
Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.